Bon, alors voilà, je suis effectivement maître de conférence à l'université de Bordeaux 4 qui a absorbé l'UFM d'Aquitaine. Par ailleurs, je travaille à Bordeaux 3 en qualité de vacataire et je suis madame didactique à Bordeaux 3 puisque personne ne veut faire de la didactique à l'université ou pas grand monde. Donc on m'a chargée de cette mission. Alors, c'est au nom d'ailleurs des arts plastiques, puisque j'enseigne les arts plastiques depuis un certain nombre d'années, je ne vous dirai pas le nombre, parce qu'il commence à devenir un peu conséquent, que je vais vous parler ici d'un dispositif qui a été mis en classe, qui a été mis en place à l'école, en relation avec la thèse que j'ai faite sur les cabinets de curiosité et la modernité de ces cabinets de curiosité, c'est-à-dire la question que je me posais à l'époque, c'était... Comment se fait-il qu'un dispositif aussi désuet soit cité dans un nombre important d'expositions, de démarches artistiques? Qu'est-ce que vient faire le cabinet de curiosité dans les installations contemporaines? Et c'est autour de cette question-là donc, que j'ai mené des recherches doctorales. Mais je vais vous expliquer un peu la genèse, puisque étant... professeur d'art plastique et ayant été muté, comme le veut la tradition, dans des endroits très éloignés, puisque j'étais parisienne à l'époque, j'ai commencé ma carrière à Senon, Eure-et-Loir, rester assez longtemps, et ensuite continuer dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Donc j'ai connu une diversité de populations scolaires qui m'a amené à réfléchir et à me poser des questions entre les injonctions ministérielles qui étaient dans les démarches de créativité et la réalité du terrain, comme on dit, j'aime pas du tout ce mot-là, mais enfin bon, la réalité de la classe, où on avait plutôt affaire à, en Eure-et-Loir, versus accent Eure-et-Loir, Eulogo, ça sert à rien tout ça. Les arts, ça ne sert à rien, et j'en fais autant. Enfin, des stéréotypes que vous avez dû rencontrer si vous êtes enseignant d'art plastique, vous avez affaire à ces deux stéréotypes majeurs, ça ne sert à rien, et j'en fais autant. Et effectivement, je commençais plutôt, puisque je sortais de l'université, à leur expliquer comment fonctionnait la sémiologie de l'image, comment Roland Barthes avait décrypté un certain nombre de publicités. Et les élèves, à ce moment-là, me regardaient en disant « Madame, vous parlez très bien, mais on n'y comprend rien. » Bon, je me suis dit quand même qu'il fallait essayer de réduire le fossé énorme qu'il y avait entre les injonctions ministérielles de la créativité tous azimuts et la réalité de ce fameux terrain dont on parle tant, qui est souvent invoqué et qui est quand même assez difficile à approcher. Alors, ça a commencé... Enfin bon, je reprendrai un peu ce qui a été dit ce matin, parce que je pense qu'il y a... Enfin, dans mon souci, en tout cas, c'était évidemment d'essayer de relier les modernes et les anciens. C'est-à-dire que je me suis rendu compte assez vite que leurs souhaits, les souhaits des élèves, c'était vraiment d'apprendre à dessiner, par exemple, ce qui était vraiment aux antipodes des injonctions du ministère de l'époque. Enfin, maintenant, ça s'est un petit peu transformé. Et effectivement, c'était une sorte d'écart assez, assez important. Alors, en arrivant en Eure-et-Loir, en Seine-Saint-Denis, je me suis confrontée à un autre type de problème, puisque les premiers étaient assez passifs, finalement. Ils voulaient bien faire ce qu'on leur demandait de faire. Enfin bon, ils l'acceptaient relativement, parce qu'ils étaient habitués à obéir. Mais les seconds, par exemple, regimbaient bien plus quant à la réalité des objectifs qu'on était amené à déployer. Et donc un jour, elle s'appelait Scheherazade, pour ne pas faire mentir son lointain cousinage, m'a dit à l'énoncé d'une consigne d'art plastique concernant la couleur, m'a dit... Mais madame, on s'en fout de tout ça, ça ne sert absolument à rien ce que vous nous demandez, ça ne c'est pas utile, donc vous ne comprenez rien à ce que nous, élèves, voulons. Effectivement, je m'étais rendu compte qu'il y avait quand même un fossé qui nous séparait et qu'on avait du mal à se rencontrer quelquefois entre nous qui venions de l'université et les élèves qui n'avaient jamais entendu parler d'art contemporain et qui avaient quand même du mal à accéder à des formes un peu nouvelles. Donc Scheherazade me dit ça, et je dis à Scheherazade, mais Scheherazade, sur un ton fleuri, 8h du matin, qu'est-ce qui t'intéresse, Scheherazade? Et Sherazade me dit, mais vous savez, la thune, il n'y a que la thune qui nous intéresse. Ça commençait bien, c'est vrai que la thune les intéresse beaucoup. Et que j'avais beau invoquer les grandes valeurs de la République, que les valeurs de l'école étaient assez éloignées de du commerce et de tout ce qui se faisait dans la circulation monétaire, etc., et qu'on incarnait quand même des valeurs un peu plus nobles. Sherazade restait assez fixée sur ses premières opinions, c'est-à-dire la thune, c'est ce qui nous intéresse, et vous ne comprenez rien. Donc je leur ai demandé assez vite, je leur ai dit, bon écoutez, d'accord, on va devenir faux monnayeurs, et vous allez fabriquer des faux billets, et vous aurez 20 si vous arrivez à les écouler dans la banlieue. Sherazade tout de suite, et la totalité des élèves à côté, ont dit, ça, au moins, ça c'est utile, ça c'est très bien. Et ben si c'est ça, d'accord, on va faire ça. Et alors, à ma grande consternation, j'ai vu, leur donnant une photocopie de billets, à l'époque c'était des francs, il n'y avait pas de photocopie couleur, ce qui, pour ce genre d'exercice, aidait quand même beaucoup. Je leur ai donc proposé de copier, ce qui est quand même un exercice qui était hautement, avec un indice d'haute dangerosité par rapport à l'inspection. Je leur ai demandé de copier le fameux billet. Ils étaient ravis, évidemment, se sont précipités sur les fenêtres de la classe et ont commencé à copier. Un silence religieux s'est installé dans la salle où j'étais instauré chef des faux monnayeurs en leur demandant évidemment de ne commettre aucun impair et de ne dire à personne ce qui se passait dans cette salle. Bon, ils m'ont juré, craché, que jamais, au grand jamais, personne ne saurait jamais ce qui se passait dans la salle d'art plastique et qui ferait les faux monnayeurs et que c'était très bien comme ça. Ben, évidemment, j'étais assez consciente que je jouais avec leur grande passion pour l'illicite. Hein. Assez souvent, ils arrivaient en me disant « Madame, vous voulez pas un blue jean ?» Enfin bon, ils étaient quand même assez... ils connaissaient assez bien les trafics du coin. Et donc ce genre d'exercice ne pouvait que les ravir et j'en ai vu l'immense avantage dans le silence que je n'avais jamais obtenu en leur proposant des choses beaucoup plus reliées aux injonctions ministérielles. Bref, ils ont fait leur faux billet et ils ont essayé quand même de les faire circuler dans la banlieue. J'avais quand même pris quelques précautions et j'étais allée voir les épiciers en leur disant bon vous allez voir on s'amuse là on fait quelques petites choses on fait circuler des faux billets mais enfin vous allez voir c'est sur du papier ingre enfin bon, ça ressemble mais ça ressemble pas vraiment à du papier à des vrais billets. Bon très bien et donc ils l'avaient fait quand même et ils avaient vu que ça ne fonctionnait pas vraiment. Et donc cet exercice de copie, donc extrêmement académique, hein, m'avait amené ensuite relié à un dispositif qui était beaucoup plus de type happening des années 70, donc là où j'étais un peu plus dans les clous par rapport à ce qu'on me demandait au niveau des démarches de créativité, m'a permis de comprendre qu'il y avait une nécessaire interaction, un nécessaire quelque chose qui devait se produire entre des pratiques académiques et les pratiques de créativité qui sont depuis les années 70 le cœur, disons, de nos missions d'enseignants d'art plastique. Donc je vais remercier Sherazade qui m'avait donné cette brillante idée. Et ensuite, ce qui a été quand même assez intéressant, c'est que ça m'a permis de leur montrer et de leur expliquer que Marcel Duchamp avait fait un faux chèque à son dentiste pour une véritable rage de dents qu'il avait et qu'il était assez démuni au niveau monétaire. Et il avait proposé donc à son dentiste de faire une fausse banque, évidemment, d'inventer une fausse banque et de payer la somme due, c'est-à-dire 115 dollars, vous voyez, c'était en 1919. Donc il invente la banque des dents, la Trust Company. Et ils fabriquent ce faux billet. Alors, leur montrer aussi que le fait de faire des faux, par exemple, c'était à la fois interroger la réalité, mais c'était aussi croiser les chemins de l'histoire de l'art. C'était leur permettre de comprendre que ce qu'ils avaient fait de façon illicite avait déjà été fait par des artistes et que précisément l'acte artistique était un acte relativement... qui produisait de l'ironie Et comme Warhol l'a fait ici en utilisant abondamment, vous savez qu'il était, il a beaucoup utilisé la monnaie et les billets. Il en a fabriqué des faux et il a vendu des billets de 1 dollar avec simplement la signature sur le billet qu'il a mis aux enchères. Donc c'était leur montrer, c'est vrai, qu'il y avait une relation entre l'illicite, entre le faux, qui devenait pour moi une stratégie très importante de compréhension critique, en fait, de à la fois du monde, hein, un mode de lecture du monde, et d'interroger un petit peu ce qui était de l'ordre académique, c'était l'apprentissage du dessin, etc., qui avait été quand même largement oublié dans les années 70, quand l'université a reconnu les arts plastiques, et quand les programmes ensuite se sont quand même très nettement orientés sur des pratiques de créativité. Enfin, moi, je sais bien, puisque j'en avais été, là, je m'en étais chargée de ces pratiques de créativité, et je m'étais rendu compte qu'elles rencontraient quand même un fossé assez important. Donc là, il me paraissait important de relier, en fait, la vieille querelle entre les anciens et les modernes avec ce système de faux. Alors, système de faux, là, c'est encore Andy Warhol avec ses billets de dollars qu'il a pastichés, qu'il a refaits, etc. Bon, comme il fait avec un certain nombre de stars, hein, d'éléments uniques qu'il multiplie de façon à en montrer la vacuité, enfin la vanité aussi, et de montrer qu'on peut tout à fait à la fois multiplier l'unique, puisque c'est le principe de la société dite de consommation, et il le fait aussi avec la chaise électrique, évidemment, la chaise électrique étant, elle, plutôt l'occulté de la société américaine, qu'il multiplie aussi en montrant, l'immontrer, et en le multipliant de la même façon. Alors, pour se souvenir que, évidemment, les opérations du faux ou de pastiche ou de contrefaçon ont été beaucoup utilisées par les arts plastiques depuis toujours. Alors, évidemment, c'est les fameuses copies, qui ne sont pas vraiment des copies, mais des interprétations. Là, il s'agit d'Edouard Hanet. Là, il y a eu quand même problème. Édouard Manet, donc, qui reprend le concert champêtre de Titien. Et évidemment, en copiant ce tableau célèbre, il se rend compte qu'il se met, enfin, il est complètement dans un rapport à sa période qui va le conduire à une sorte de marginalité, puisque lui, il assume complètement la tradition académique, puisqu'il reprend un tableau célèbre. Et dans les mêmes termes, puisque les hommes sont habillés, les femmes sont nues, sont des allégories. Mais le fait de transposer cette scène, évidemment, au 19e, devant un public bourgeois qui ne voit que du nu et non plus des allégories, puisque évidemment il l'installe dans un au-dehors de l'allégorie, va engendrer un certain nombre de questionnements, enfin, et plus que de questionnements, de rejet du fameux Manet, pourtant inscrit, lui, dans la tradition académique. Enfin, j'essayais de leur montrer, en tout cas, qu'il était évidemment nécessaire et important de ne pas se couper de la tradition, et que cette tradition était nourricière de toute production nouvelle, que la nouveauté ne pouvait qu'être inspirée par ce qui s'était passé précédemment, et que l'histoire de l'art nous en montrait maints exemples. Donc là, vous voyez toujours le fameux Manet, redigéré par Picasso, qui, bien que peintre extrêmement moderniste, hein, avec tout ce qu'il a mis en place avec les papiers collés, etc., fait une lecture, une interprétation qui lui permet à la fois de regarder le tableau, d'observer le tableau de Manet, et aussi de faire des propositions plastiques qui sont les siennes. C'est-à-dire, évidemment, les peintres, dans toute leur... le travail de copie, enfin copie entre guillemets, interprétation, etc., ont toujours positionné à la fois leur lecture des tableaux anciens et ont proposé des interprétations et de nouvelles façons de percevoir l'espace, mais qui ne pouvaient être déclinées que partant de la tradition. Et malheureusement, on l'a un petit peu oublié, enfin on a oublié de se nourrir à la tradition et dans ce qu'elle avait de tout à fait moderniste et tout à fait importante. Alors là, vous voyez, quand Picasso relie les femmes d'Alger de Delacroix, évidemment, il en cache un certain nombre de choses, il en transforme beaucoup d'éléments, il joue évidemment et il travaille sur la perspective, sur la fragmentation des formes, et il nous propose de nouvelles femmes d'Alger. Bon, Delacroix étant quand même très intéressé par la couleur dans la période qui était la sienne, il relie par la couleur, alors que on peut pas dire vraiment que Picasso fut un coloriste manifeste. Enfin, pour moi, c'est plutôt un sculpteur, quelqu'un qui a beaucoup pensé à l'organisation des formes dans l'espace, par le cubisme notamment et après aussi. Donc, tous les grands peintres ont toujours interrogé la tradition, et dans la tradition, évidemment, ceux qui avaient apporté des éléments importants et des innovations essentielles. Alors, donc, le fameux Picasso avec sa nature morte, hein, je passe. Bon, alors là, je reviens sur le faux, parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir à l'histoire du faux, et je me suis dit que, finalement, quand j'étais en Eure-et-Loir, j'avais fait beaucoup de faux aussi, et que ces faux, j'avais fait un faux cirque, notamment. Le faux cirque, c'était des faux numéros, j'avais monté un faux cirque, donc avec des faux numéros, et ça avait été très intéressant, parce qu'une de mes élèves, qui était la pire des élèves, enfin, qu'on nomme comme ça, puisqu'elle ne voulait jamais rien faire, ni en art plastique, ni ailleurs, d'ailleurs, avait pris en charge la direction du cirque et était devenue l'organisatrice du cirque. Et elle avait organisé, et on avait organisé, des faux numéros, c'est-à-dire que, ici, vous voyez à droite un lion syndicaliste qui refuse de sauter parce qu'il n'a pas assez à manger et qu'on lui a pas donné suffisamment, et que pour sauter dans un arceau, il faudra vraiment qu'on lui donne davantage. Donc ça, c'était une version du faux cirque. À côté, vous voyez une autre image. Mais on avait fait aussi... donc je reviens à cette élève qui est là, qui est maintenant, je pense, qui est pas grand-mère, non, enfin, qui doit être chargée de famille, qui était donc une mauvaise élève, comme on dit à l'école, et qui prenait en charge ce cirque, s'est révélé être tout à fait capable à la fois d'organiser, d'écrire des sketchs, de les mettre en scène, d'organiser la fête. Le conseil de classe est venu pas très longtemps après, et on lui promettait évidemment un CAP de coiffure, puisque elle était quand même, elle avait des résultats scolaires épouvantables. Je me suis un petit peu battue pour, en montrant ses qualités, et ses qualités notamment par... à travers ce cirque, ce qu'elle avait pu mettre en œuvre. Et elle a réussi, je me suis battue pour qu'elle passe en seconde générale. Et je l'ai retrouvée sur le même marché où on faisait les représentations du faux cirque. Et elle avait fait une maîtrise d'ethnologie. Donc, du CAP de coiffure qu'on lui proposait, cette démarche artistique un petit peu décalée lui avait permis d'aller vers des études et de raccrocher, disons, les enseignements fondamentaux qu'elle mésestimait complètement et qui manifestement ne lui plaisait pas beaucoup. Donc le faux, j'ai continué, alors je vais pas vous dire, parce que bon, j'ai fait quand même beaucoup ça, des faux tableaux qu'on allait avec mes élèves quand j'étais à Paris, enfin en Seine-Saint-Denis, qu'on allait accrocher, puisqu'ils en faisaient autant des Picasso, je leur disais bon d'accord, vous en faites autant. On allait les accrocher à côté des vrais tableaux pour voir un peu ce que ça donnait. Effectivement, ils se rendaient compte que c'était pas tout à fait pareil. C'était pas des vrais faux. C'était pas des faux Picasso. C'était pas des faux légers. C'était des probables. C'est-à-dire que ça leur demandait de réfléchir un peu à la démarche, à l'œuvre peint de l'artiste en question, pour qu'ils incrustent dans cette démarche une probabilité, pardon, qu'ils allaient placer à côté des tableaux. Donc là, vous reconnaissez des poussins qu'on a mis en scène. Alors là, le but, évidemment, c'était de leur montrer que si, dans les représentations premières, on considère que la peinture, ça n'est qu'une dénotation d'un tableau racontant une histoire, ce qui est le cas de Poussin avec le massacre des innocents, par exemple, on comprenait bien qu'en photographiant des personnages qui étaient dans une situation, on en avait une toute autre formulation, c'est-à-dire que la photographie, l'enregistrement, pas mécanique, mais enfin la composition d'une photographie n'avait rien à voir avec la peinture, qui évidemment procédait par collage, même si elle se voulait, par un espèce de collage ou de raccourcis spatiaux qui leur permettaient d'appartenir à la nature de la peinture plutôt qu'à la nature de la photographie. Évidemment, toujours avec cette idée que la peinture n'est qu'une illustration d'une histoire. hein, n'est que la dénotation d'une histoire. Ce que font nos collègues historiens, évidemment, de façon assez logique. Mais nous, en tant que spécialistes des images, et là, je pense que il faut absolument appuyer le trait, nous sommes à même, et peut-être même les seuls, à penser l'image dans ses arcanes, c'est-à-dire à penser la structure de l'image en fonction de la façon dont elles ont été conçues, fabriquées, et pas seulement en fonction de l'histoire qu'elles racontent. Et elles ont été conçues avec la perspective, le clair-obscur, enfin je parle de la tradition évidemment, et là c'était l'occasion de leur montrer qu'il y avait quand même un espace entre le représenter, le dénoter, et puis la construction véritable de l'image. Alors je vais peut-être arriver assez vite au cabinet de curiosité. Donc l'histoire du faux me permettait de leur montrer que le faux était un questionnement esthétique essentiel dans l'histoire de l'art, donc posé à la fois par Picasso avec le faux, la nature morte à la chaise cannée, où il y a un faux, une fausse toile tirée, enfin une vraie toile tirée dans un tableau qui représente une nature morte, et d'autres pratiques d'art contemporain, notamment quelqu'un qui s'appelle Bublex, qui est d'ailleurs lyonnais, je ne sais pas si parmi vous un certain nombre de Lyonnais le connaissent, a inventé lui aussi une ville qui s'appelle Glooskap, et héritière d'une divinité indienne, et il en a inventé, disons, la construction. Il a inventé l'histoire qui aurait pu arriver à cette ville, et il en est même aujourd'hui à en vendre des parcelles qui évidemment sont fictives, mais qui poursuivent le chemin logique de la construction de cette ville. Donc le faux, évidemment, croisait cette à la fois la modernité et le contemporain, qui joue beaucoup sur ces dispositifs fictifs. Alors il continue à faire vivre cette ville, Glooskap, avec des cartes, avec un certain nombre de photographies qu'il va prendre, qui sont évidemment assez, qui sont reconstruites. Alors, on en arrive au cabinet de curiosité quand même. J'essaie de galoper un peu. Avec la première xylographie de ce cabinet, d'un cabinet de curiosité qui est de l'histoire naturelle de Ferrante Imperato, donc à la fin du XVIe siècle à Naples. Donc, le musée de Ferrante Imperato, alors vous voyez, ça commence bien. On a des hommes qui regardent une espèce de bric-à-brac. Alors moi, ça m'intéressait le cabinet de curiosité, non seulement parce qu'il y avait beaucoup de faux, mais parce que le problème du rangement a toujours été un grave problème pour moi. Ça a été comment ranger sa chambre, hein. Je suis pas la seule à poser la question. Mais enfin bon, là, il y avait un rangement d'un bric-à-brac, ce qui m'intéressait quand même beaucoup. Donc à la fois un travail qui avait été ancré dans l'espace de la classe, qui m'avait amené à réfléchir sur le faux, et qui m'amenait assez logiquement à réfléchir sur les cabinets de curiosité qui utilisaient beaucoup de faux, entre autres, hein, mais qui était aussi un dispositif fictionnel assez intéressant. Bon, outre le fait de ranger la chambre. Alors donc, une des premières représentations d'une xylographie où on voit un crocodile suspendu au milieu d'un plafond de crustacés divers, de poissons, etc. Donc, d'abord, on commence à se dire, c'est quand même bizarre, qu'est-ce que fait ce crocodile-là, pourquoi ce gros machin, enfin. Et là, il y a un certain nombre d'interrogations à l'époque, notamment d'un révérend père jésuite, d'Acosta, qui se pose énormément de questions sur le fameux crocodile. Parce que le crocodile n'est pas cité dans la Bible. Dans la nomenclature de Noé, il n'y a pas de crocodile. Donc, la grande question qui se pose d'Acosta, c'est le crocodile est-il né des limons du Nil, ou était-il, ou Noé l'a-t-il oublié, qu'est-ce que le crocodile? En plus, il est évidemment vecteur d'une hybridité évidente entre végétal et minéral. Est-il rocher? Est-il animal? Enfin, c'est une incertitude totale, et le cabinet de curiosité, d'une certaine façon, va poser une sorte de jeunesse domestique, hein, puisqu'il est question de montrer la création de Dieu poursuivie par les hommes et classée par les hommes, et va montrer ce qui l'intéresse, c'est-à-dire la notion de passage, comme le crocodile en est une sorte de d'incarnation symbolique, c'est-à-dire il est un passage, hein, Le passage intéresse beaucoup, enfin moi qui suis bordelaise d'adoption, mais tout de même bordelaise depuis un certain temps, quelqu'un comme Montaigne qui parle beaucoup de cette branloire pérenne et de l'idée de passage qui hante cette période du XVIe siècle. Donc le passage du crocodile qui incarne un certain nombre d'énigmes. Alors, classement, jeunesse domestique, poursuite de l'œuvre divine, principe de collection, c'est la première fois quand même qu'on voit dans une chambre reconstituer un univers qui est l'univers d'une globalité pensée par le fragment, c'est-à-dire que l'infini se pense par par l'entremise du fragment, et on a des fragments de toutes sortes. Alors évidemment il y a un certain nombre de collections qui vont s'interpénétrer, des collections naturalistes, des collections antiques, de numismatiques, des collections de toutes sortes, et surtout naturalistes, parce que évidemment c'est le moyen d'échapper à l'époque à l'emprise des religieux, et notamment un des grands naturalistes qui va être amené à classer, à opérer des classements, Aldrovandi, va être d'abord un apprenti théologien, philosophe, et va être suffisamment embêté par l'Inquisition, il va faire même quelques mois de prison, pour aller se diriger vers le champ naturaliste, qui était un peu moins regardé par, par les religieux, ce qui lui permettra de mettre en place une nomenclature. Et en fait, ces cabinets de curiosité qui sont présidés par l'idée de goût, par l'idée de, d'un goût d'un amateur, là les amateurs, comme vous le voyez, sont exclusivement masculins, ces amateurs, donc ceux qui aiment, vont montrer cette universalité des savoirs, donc et vont être un petit peu retranchés et sortis, disons, des grandes questions théologiques qui agitent l'époque. Alors il y en a d'autres, hein, des xylographies de cabinets de curiosité. On voit toujours, d'ailleurs, un classement qui opère par le visible. C'est-à-dire que c'est plutôt les gros objets qu'on place de façon symétrique, pour qu'il y ait un ordonnancement de ces cabinets de curiosité, qui seront aussi, comme le dit un certain nombre de chercheurs sur la question, des théâtres de la mémoire. Pour instituer des discours, on va se servir d'un certain nombre d'objets pour instituer, pour constituer une mémoire d'un discours à produire. Alors, le fameux crocodile, on va le retrouver parce que il va se balancer entre les incertitudes de ses états et notamment dans les églises. On le retrouve à Santa Maria del Grazie, à près de Mantoue, c'est pas vraiment à Mantoue, et on peut trouver encore ces objets curieux qui vont être cités abondamment d'ailleurs par ceux qui font à l'heure actuelle des cabinets de curiosité. On peut se demander pourquoi on voit des crocodiles. Eh bien, le crocodile, c'était vraiment un élément phare. Parce qu'il incarnait donc cette chose. Alors revenons au faux, parce que c'est assez drôle, dans les cabinets de curiosité, il y a aussi un certain nombre de facéties qui vont s'exercer. C'est-à-dire que, par exemple, un oiseau qui s'appelle le Manucodiata existe dans les pays nouvellement découverts par les découvreurs du XVe siècle. Et ils vont envoyer, les chasseurs vont envoyer aux amateurs, curieux, etc., des animaux fabuleux qui s'appellent les Manucodiata, qui existent en vérité, mais ils vont casser les pattes, ils vont amputer les pattes, et ils vont les envoyer comme objet, comme objet de légende. C'est la mode à l'époque, hein. Les licornes, toutes ces choses hybrides qui existent dans les légendes et qui sont réutilisées dans les cabinets de curiosité comme objets énigmatiques. Donc le Manucodiata va être expédié, évidemment, va être vendu très cher aux curieux qui vont se les arracher. Avec la légende suivante, il se nourrissait d'air, ne copulait jamais, ne se posait jamais, et était des oiseaux de paradis, comme leur nom l'indique. Ils étaient dénommés oiseaux de paradis. Alors évidemment, les curieux amateurs vont se rendre compte que tout ça sont des légendes. Les cabinets de curiosité vont perdurer jusqu'au XVIIIe, et dans ces cabinets du XVIIIe, notamment ceux du Molinet, il y aura toujours ce Manucodiata qui sera la mémoire en fait de la légende qu'il a portée. Donc ils sauront évidemment que ça, qu'il avait des pattes, puisque bon, sa traduction officielle c'est plutôt ça, et on voit que il est quand même d'anti de pattes. Donc Ambroise Paré, enfin bon, je vais passer assez vite parce que sinon je vais pas avoir le temps de vous parler du dispositif didactique que j'ai mis en place autour du cabinet de curiosité. Donc Ambroise Paré, dans Des monstres et des prodiges, montre évidemment toujours cette est fasciné par les hybrides. On dira d'ailleurs de lui à l'époque qu'il s'amuse à des jeux d'enfants, parce que bon, il faisait quand même pas seulement il montrait pas simplement cette fascination. Mais des noms inventés, et voyez, si on s'intéresse beaucoup ici à une sorte de licorne, amphibie vivant en l'eau et en terre, c'est comme, parce qu'il ressemble au crocodile. Évidemment, le crocodile incarnait toutes les incertitudes et toutes les promesses possibles. Donc, fascination pour les monstres à l'époque. Et Ambroise Paré en parle en disant que les causes des monstres sont plusieurs. La première est la gloire de Dieu, la seconde son ire, la troisième la trop grande quantité de semences, hein, je ne sais pas si vous voyez le rapport, la quatrième la trop petite quantité, donc des choses assez contradictoires, la cinquième l'imagination, la sixième l'angustie ou petitesse de la matrice, la septième l'assiette indécente de la mère étant grosse, s'est tenue trop longtemps les cuisses croisées ou serrées contre le ventre. La huitième, par chute ou coup donné contre le ventre de la mère. La neuvième, par maladie héréditaire ou accidentelle. Donc, on voit que la naissance des monstres est produite par des quantités quand même assez ouvertes de possibilités. Soit l'une, soit l'autre, qui nous semble assez contradictoire. Donc, les monstres interrogent énormément, ces hybris interrogent énormément leur naissance. Et la question, c'était aussi pourquoi ils avaient interrogé la période actuelle, pourquoi ils l'interrogeaient sous la forme du cabinet de curiosité. Donc je passe à sous dans Des monstres et des prodiges d'Ambroise Paré. Donc vous avez nombre d'illustrations assez cocasses comme celle-là, les monstres chiens et les figures hideuses de diables qui évidemment montrent, qui s'installent sur des stéréotypes déjà existants de figures monstrueuses et diaboliques déjà connues par la tératologie médiévale. Donc on arrive au château d'Ambras, donc qui a à Innsbruck installé un fameux cabinet de curiosité. Donc ce cabinet de curiosité, on en voit ici une image. Fascination donc pour les monstres aussi, les monstres étant les géants, les nains, là vous voyez à la fois des requins, mais aussi un géant avec un nain à côté. Donc toute cette forme de monstruosité sont extrêmement, pour l'époque, hein, sont extrêmement valorisées dans les cabinets de curiosité, qui montrent donc des objets aussi comme ça. Alors ça, c'est au château des Coins, au musée de la Renaissance, de Jamnitzer, mais qui montrent des choses qui nous paraissent extrêmement kitsch. En fait, là, c'est Daphné avec des coraux. Et on peut mettre en apposition, par exemple, les travaux d'un Jeff Koons avec un goût assez kitsch pour des choses qui nous paraissent, qui paraissaient au courant moderne relativement, une forme de monstruosité. Or, dans la pensée maniériste, hein, dans la pensée de la post-Renaissance, il est évident que montrer des coraux greffés comme ça sur une statue de Daphné était simplement la volonté de montrer, bon, d'abord le fait que Daphné s'est transformée en laurier rose, mais aussi qu'elle incarne, cet objet-là incarne à la fois l'œuvre divine et sa continuité en œuvre, en génie humain. C'est-à-dire que le génie humain se pose en continuateur de l'œuvre divine, et que nature et culture, en fait, sont intimement liées par la production artistique qui les relie. Alors, bon, c'est assez intéressant de les voir sous ces auspices, et évidemment, c'est le travail en histoire de l'art et pas des arts, puisque je rencontre assez bien ce qu'ont dit les collègues précédents concernant la monstruosité plaquée de l'histoire des arts, qui pour moi n'a aussi aucun sens, hein, ou pas beaucoup de sens, disons. Donc l'horloge solaire, pareil, hein, qui montre à la fois un objet culturel, un objet de façon humaine, montrant génie humain, dans une roche et installée pour montrer vraiment cette continuité. Bon, alors je passe parce qu'il y a énormément de travaux montrant, là c'est une tour d'ivoire très petite, donc qui montre le génie humain d'avoir sculpté dans l'ivoire une sorte de tour, et là qui appartient à la collection des évêques de Salzbourg. On reconnaît tous les thèmes iconographiques et notamment au milieu les thèmes iconographiques utilisés par la Fabrica de Vézal, de la mort en action qui réfléchit sur elle-même, hein, vous savez que grande question du XVIe siècle où Rabelais pose la question de la pourriture humaine. Sommes-nous vraiment des matières au paradis, à transmutation pour une vie éternelle, ou sommes-nous que plasmature humaine? Alors, cette question des cabinets de curiosité se retrouve évidemment dans la modernité avec quelqu'un comme Breton qui va installer en sa maison, 42 rue Fontaine à Paris, un certain nombre d'objets venant de catégories très différentes, jusque-là très séparées, c'est-à-dire que les catégories artistiques et académiques n'étaient pas reliées aux catégories classiques, aux catégories modernes. Donc là, on change les catégories et on voit que Breton montre un dispositif chez lui où des arts du quotidien, des arts, les arts africains, des arts académiques et des nouvelles démarches artistiques peuvent cohabiter pour fabriquer en fait un dispositif plutôt interstitiel où c'est le regard du spectateur qui va évidemment concevoir un parcours, et c'est plutôt dans le vide de la relation entre ces objets que va s'établir la réflexion. Qui va engendrer elle-même une posture de création. Donc je passe assez vite parce que vous connaissez, j'imagine. Évidemment, le grand muséographe du XXe siècle, c'est Marcel Duchamp. Hein, tout ce que j'ai fait d'important peut tenir dans une petite valise, avec la boîte en valise de Marcel Duchamp, Rosset la vie. Et tout à fait incarné par cette hybridité du surréalisme qui va mélanger de façon assez... fréquente des choses manufacturées et des objets naturalistes. Alors aujourd'hui aussi Hubert Duprat qui a repris, vous savez, les expériences de l'entomologiste Fabre et qui a placé ses frigates dans d'habitude c'était avec des crécelles, c'était avec des brindilles que ces bestioles, que ces larves se constituait un fourreau dans lequel ils abritaient leurs amours. En fait, là, Duprat leur donne des matériaux précieux et ils vont fabriquer des fourreaux avec de leur salive et ils vont fabriquer des espèces de bijoux. Donc là, on est encore dans une relation scientifico-artistique qui, évidemment, nous intéresse à plus d'un titre parce que les deux, comme le cabinet de curiosité le montrait, les deux démarches, en fait, sont relativement imbriqué. Je passe sur la muséographie galopante des pratiques artistiques actuelles. Donc Annette Messager, Karsten Bott qui montre des brosses à dents usagées qui classent par couleur et pour montrer un peu l'usage anthropologique qui peut être fait de postures artistiques en fait. Évidemment relayé dans les mythologies individuelles par Boltanski, avec ces relations de différents objets ayant appartenu à l'homme de Barcelone ou des vitrines de référence. Je passe un petit peu vite pour qu'on ait un peu de discussion parce que... Allez, je passe. Sophie Kahl, que vous connaissez aussi, et qui place dans le musée de Freud à Londres, une robe de mariée lui ayant appartenu, et elle place un certain nombre d'objets lui ayant appartenu dans ce cabinet, faisant interagir des mythologies individuelles, personnelles, et un musée, qui est un musée aussi très personnel, qui est en fait la muséographie d'un lieu de vie qui est celui de Freud. Alors le fameux crocodile qu'on trouve chez Mario Merz, donc accrochés, cités abondamment. Toujours pareil, les poches de pantalon, donc une nomenclature assez scientifique, en fait, visant à montrer que toute forme esthétique actuelle vise à être une forme anthropologique, donc la relation entre la science et les sciences humaines et l'art et la posture esthétique sont reliées. Bon, je passe, hein, là, pareil, il y en a abondamment, hein, il y a même un livre de Putnam qui a été fait sur le musée comme médium artistique actuellement. Donc, à une période d'ailleurs où dans les années 70, on s'est enfui des musées en disant que c'était une cage aux œuvres et que elle n'en versait que une partie assez morbide. C'était la période du Land Art, etc. Bon, on a vu quand même à ce moment-là et au même moment greffer un certain nombre de pratiques artistiques au musée et même pensant le musée comme un label, enfin comme une nécessité pour instaurer des pratiques artistiques. Foncouberta qui fabrique lui aussi des hybrides et qui l'installe au cabinet d'Oiron, installé par Jean-Hubert Martin, qu'il a appelé d'ailleurs Curios et Merveilles dans le fameux château de la Renaissance. Bon, je passe parce que l'appareil des performances qui sont faites autour du musée pour simuler le discours pédagogique des dans les musées et pour faire des faux discours donc au musée de Philadelphie en 89. Bon, Buren n'a pas manqué d'utiliser le Muséerat à Genève pour l'emballer avec des rayures un petit peu plus serrées que celles qu'on conçoit d'habitude. Damien Hirst utilise des vieux mégots réutilise des vieux mégots et les montre dans les différentes postures avec lesquelles ils ont été écrasés. Bon, je passe parce qu'il y en a quand même un paquet. Donc, on arrive au dispositif qui a été mené en classe parce que bon, c'est un peu ça qui était l'objet de la communication. Donc, forte, si vous voulez, de ces interrogations sur le faux, sur la relation entre les anciennes et modernes, c'est-à-dire la copie académique et puis la poursuite dans des conduites de création. J'ai imaginé donc de conduire un cabinet de curiosité en classe avec un dispositif qui est le suivant. Alors, vous voyez là des cabinets qui ont été constitués dans des endroits différents avec des collections. Alors, ça, je vais vous expliquer parce que dans le groupe de classe, j'avais constitué, donc là, vous voyez les installations qui ont été mises en place par les élèves ou les stagiaires. J'avais constitué quatre collections. La première, c'était une collection ethnographique. C'est-à-dire, je leur demandais de se répartir par choix. Et les élèves, donc, choisissaient entre quatre collections. La collection ethnographique, une collection de portraits, une collection scientifique et une collection à trous, c'est-à-dire qu'ils choisissaient leur collection. Donc, ces quatre collections étaient l'objet d'un choix. Et je proposais dans un premier temps de construire une carte, par exemple, pour la collection ethno, où ils inventaient une civilisation. Donc, à partir de la carte, et c'est un peu ce qui s'était passé dans l'histoire, des cartes étaient faites à partir de traces aléatoires, et ces traces aléatoires étaient ensuite agrémentées, si vous voulez, selon les références académiques des légendes qu'on fait habituellement en histoire-géographie, en géographie plutôt. Et donc, à partir de ces légendes, ils construisaient quelque chose de logique par rapport aux traces qu'ils avaient devant eux. Et ils nommaient, hein, comme ont fait les premiers découvreurs. D'ailleurs, ils ont nommé, en fonction de ce qu'ils voyaient, ils ont nommé les terres qui étaient des terres inconnues et ils les ont nommées en fonction de leur ressemblance. Et de l'analogie qu'il provoquait par rapport à des connaissances antérieures, etc., ou des légendes antérieures. Donc, il nommait ces cartes, et à partir de du fait de nommer cette carte, enfin de lui donner des lieux, il commençait à inventer l'histoire de cette civilisation. Donc, ça, c'est une autre carte. Mais il fabriquait des totems, par exemple, totems qui pouvaient être versés dans différentes variétés de propositions plastiques que je leur proposais. Donc là, vous voyez du papier mâché. Là, c'est des choses qu'on connaît bien, nous, parce que de la taille sur savonnette, donc plutôt de la sculpture. Ici, du papier mâché qui était peint. Donc, des croquis, puisqu'on allait au musée et que je leur donnais un certain nombre de d'éléments pour faire des croquis, d'éléments académiques pour faire des croquis. Donc ils étaient amenés à... on allait au musée, et puis au musée d'Aquitaine, où il y a des collections quand même assez importantes, et on dessinait de façon assez différente, avec de les mines de plomb, avec du fusain, avec la technique des trois crayons, ensuite à l'angle de Chine. Et le but ensuite, là vous voyez, c'est de la taille sur Ciporex, toujours sa vonnette, terre, etc. Et ensuite, on reliait tous ces indices pour donner une logique à cette terre qui avait produit autant de choses imaginaires. Donc là, vous voyez une espèce de sculpture Janus avec deux visages en papier mâché. Bon, là, on s'était amusé. Ils avaient découvert ça tout seuls, d'ailleurs, que le polystyrène ressemblait un peu au tessel des mosaïques, et il y avait imprimé un certain nombre de figures qu'on trouve sur les mosaïques romaines. Et ça nous donnait l'occasion de fabriquer un carnet de voyage, enfin d'avoir une variété de productions plastiques touchant à la fois des savoirs académiques, donc croquis, etc., mais une variété de productions dans volume et partant de choses comme ça. C'est-à-dire que vous voyez, tout ça a été fait à partir d'une cueillette, en fait. Voilà, le principe premier, c'était celui-là. Ils faisaient des traces aléatoires, que vous voyez ici, et ils essayaient de cueillir des formes, comme le propose Léonard de Vinci dans le Codex Atlanticus, où, en fonction de cette cueillette de formes, ils vont sélectionner des éléments, ou les extraire et les réutiliser, ou utiliser ça de façon à poursuivre le travail pour en donner une définition plastique un peu plus compréhensible pour les spectateurs. Donc je glisse. Collection scientifique, évidemment des pochoirs à partir du même système de tâches aléatoires, avec des légendes tout à fait variées, tout à fait drôles aussi, parce qu'évidemment on prenait, ça nous permettait aussi dans ce dispositif un peu pluridisciplinaire de regarder comment étaient constituées les légendes, donc d'interroger la nomenclature linéenne, par exemple, avec les doubles entrées à la fois grecque et latine, et de réfléchir à ce qu'était une nomenclature scientifique. Donc là, vous voyez des collections scientifiques de papillons, des traces qui avaient été faites différents animaux dans la pâte à sel, et puis d'interroger la muséographie scientifique avec différentes choses, des bocaux, etc. Et puis les animaux pouvaient être aussi des choses posées à partir d'éléments, donc ça pour les plus petits des élèves qui pouvaient tout à fait constituer cette organisation de montage d'éléments posés simplement sur une feuille et photographiés. Ou des éléments recopiés, enfin redécoupés d'un lavis qui avait été fait et qui n'avait pas du tout pour destination de ressembler à, dans un premier temps, à des insectes. Bon, les collections au choix, alors là, l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il était pluridisciplinaire et qu'il permettait aussi de proposer une collection à trous, c'est-à-dire que tous les élèves qui ne voulaient pas entrer dans des cadres trop précis, se diriger vers cette collection, et là ils avaient inventé des collections qui étaient des collections une collection de lunettes, alors là les lunettes avaleuses ou les lunettes pour recevoir les larmes, par exemple. Et donc eux avaient étaient plutôt du côté des démarches de création et inventaient complètement leur collection, ce qui correspondait assez bien aux collections des musées des cabinets de curiosité qui précisément étaient fondées en goût, c'est-à-dire les amateurs, ceux qui aiment, instituaient leur collection autour de leur goût, c'est-à-dire que la relation entre les outils de classement qu'ils mettaient en place et l'imagination était quand même très 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 liée, et c'est un peu ça que j'ai essayé de montrer dans ces différentes propositions, dans ce dispositif pluridisciplinaire. Alors je regrette de ne pas avoir plus de temps, il y a beaucoup plus de choses à dire, mais c'est vrai qu'on est un peu emballé par l'intérêt qu'on porte à l'objet de la communication et puis au nombre de choses qu'on doit dire en si peu de temps. Voilà. En tout cas, je m'arrêterai ici. Je termine sur une collection de nez qui était assez drôle aussi, où ils avaient fait toutes sortes de nez avec des légendes tout à fait curieuses. Les collections de portraits, bon, je termine quand même par ça parce que c'est, ça peut être intéressant sur les connaissances académiques. Là, vous voyez quelque chose qui a été sélectionné dans ces tâches aléatoires. Et là, par contre, ça me permettait de faire des activités décrochées pour leur montrer un certain nombre de connaissances académiques à partir de d'un dispositif assez simple qui était de retourner une image photocopiée. Là, vous voyez, on la voit pas, mais cette image est photocopiée, on la voit ici. On la retourne et on essaie de ne traduire les valeurs avec un camailleux, par exemple. On ne traduit les valeurs qu'en fonction des valeurs intermédiaires, les valeurs claires et les valeurs foncées. Et évidemment, ils arrivent assez vite à interpréter, tout en copiant, une photographie. Ils sont très étonnés de voir que sur une même photo, photocopie, on peut avoir cette forme-là, mais cette forme-là. Et ça peut tout à fait aussi permettre d'aller chercher des références artistiques en fonction de la facture qu'ils ont choisie, alors qu'on est dans un exercice académique qui semble de la copie, pour montrer qu'il n'y a pas de copie en vérité, il y a toujours une interprétation, et que cette interprétation, elle est amenée à être regardée et pensée dans l'histoire des démarches artistiques. Bon, excusez-moi, j'ai un peu débordé. Je vous parle. Oui, il y avait encore les productions d'écrits. Je termine quand même un tout petit mot. Les productions d'écrits qui permettaient donc dans ce dispositif pluridisciplinaire un certain nombre de personnes appartenant aux quatre groupes de relier tous les groupes et d'inventer l'histoire de l'amateur et de le prouver, de prouver cette histoire en écrivant un certain nombre de textes qui justifiaient en fait la logique du cheminement de l'amateur qui reliait toutes ces collections. Scientifiques, ethnographiques, de portraits, etc. Parce que dans les cabinets de curiosité, il y avait toujours les portraits des personnages importants qui présidaient à l'élaboration interactive du cabinet de curiosité. Bon, excusez-moi d'avoir dépassé, là je m'arrête.